votre temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gemozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous voici à la rentrée de septembre avec Radio Gemozo, à cette émission tous les 15 jours. Dis bonjour Lia hein, pour cette rentrée.
Bonjour Catherine, bonjour les éditeurs de Radio Gemozo.
Voilà, nous revoilà.
Eh bien oui, pour cette nouvelle saison, hein, incroyable.
Tout feu, tout flamme.
Tout feu, tout flamme, toujours.
Voilà, avec moins de chaleur.
Tout à fait.
C'est un peu plus
ça agréable. Ça fait du bien quand même.
Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui va nous parler de plusieurs choses, entre autres de l'ouvrage qu'elle vient d'écrire. Maintenant, Marine, je te laisse te présenter succinctement.
Bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. Je suis très heureuse de venir ici vous parler un petit peu de mon œuvre et surtout de la santé mentale. Donc, je suis Marine Aiguier, intervenante en santé mentale, spécialisée dans le burn-out professionnel et parental. Voilà.
Ouais.
Bon. Depuis quelque peu, donc je suis ravie d'être ici.
Voilà. On va peut-être planter le décor par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va déjà démarrer fort et carrément sur la pédale d'accélérateur. On va démarrer avec les problèmes d'épuisement, puisqu'on essaye d'employer le mot épuisement professionnel à la place de burn-out. Le problème d'épuisement professionnel dans le travail social. Marine, qu'est-ce que tu en dis ?
Alors, oui.
Oui,
épuisement,
on va démarrer avec ça.
On y va, c'est
voilà,
parti.
Une petite audio à ce sujet par rapport à ça.
L'éducateur spécialisé Olivier Terran s'appuie sur des témoignages de professionnels pour éclairer une réalité souvent passée sous silence. Le burn-out dans les métiers du social. Derrière l'engagement, ces récits révèlent une usure profonde entre surcharge, perte de sens et sentiment d'impuissance. Bonjour Monsieur Terron.
Bonjour.
Pourquoi ce sujet ?
Les métiers du social sont souvent présentés comme des métiers de vocation, d'engagement, parfois même d'abnégation. Mais derrière cette image se cache une réalité plus dure. Surcharge, épuisement émotionnel, manque de moyens, sentiment d'impuissance. À partir de plusieurs témoignages d'éducateurs, d'assistants sociaux et de travailleurs de terrain, dans cette interview, je vais vous proposer une réflexion sur le burn-out dans le secteur social. À partir de la phrase qui m'a été à plusieurs reprises répétée, on ne s'effondre pas d'un coup, on s'effrite.
Quels sont les premiers signes d'un burn-out dans votre quotidien ?
Les témoignages convergent, le burn-out ne surgit pas brutalement, il s'installe. On a pu me dire au début, on pense que c'est juste de la fatigue, puis on dort mal, on rumine, on n'arrive plus à décrocher, même le week-end. Ou alors, on me dit, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une lente usure, comme si on perdait des morceaux de soi. Beaucoup évoquent une fatigue émotionnelle plus que physique, la difficulté à absorber la détresse des autres sans accompagnement suffisant, ce qui a pu se traduire par « on porte trop de choses » ou « on a trop peu de moyens ».
Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre travail ?
Justement, c'est le manque de moyens qui revient comme un fil rouge. On m'a dit, on nous demande d'accompagner toujours plus de situations complexes, mais les équipes ne suivent pas. On devient gestionnaire de crise permanente, sans pouvoir faire du travail de fond. Les professionnels parlent d'ailleurs d'une transformation du métier. Moins de temps pour l'humain, plus de tâches administratives et une logique de flux plutôt que d'accompagnement. Un d'entre eux m'a dit que l'impuissance est le pire des poisons.
Qu'est-ce qui épuise le plus psychologiquement ?
Au-delà de la charge de travail, c'est le sentiment d'impuissance qui revient le plus fortement.
Avez-vous des exemples à partager ?
Oui, bien sûr. Certains travailleurs sociaux, on peut me dire, tu sais, ce qu'il faudrait faire pour aider la personne, mais tu n'en as ni les moyens, ni les relais. Ou encore, on accompagne, mais on a l'impression de ne jamais pouvoir réellement changer les choses. Cette frustration répétée devient, selon certains, un facteur central de l'épuisement professionnel. Ça peut se traduire par on finit par ne plus se reconnaître soi-même.
Et comment le burn-out impacte-t-il votre vie personnelle ?
Les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle deviennent poreuses. Certains me disent « je rentrais chez moi, mais j'étais encore au travail dans ma tête ». D'autres encore « j'étais irritable, absent, même avec mes proches, je n'avais plus d'énergie émotionnelle ». Certains évoquent aussi une perte de sens, voire une forme de désengagement affectif progressif. Ce métier ne peut pas reposer sur le sacrifice permanent.
Que faudrait-il changer selon vous ?
Les réponses sont sans ambiguïté. Le problème n'est pas seulement individuel, il est structurel. Ainsi, on a pu me dire on ne peut pas tenir sur la seule base de la vocation, ou encore il faut des équipes renforcées, du temps, de la reconnaissance réelle, pas seulement symbolique. Les professionnels interrogés insistent sur la nécessité de repenser l'organisation du travail social, effectif, supervision, espace de parole et surtout une reconnaissance concrète de la charge émotionnelle.
Et enfin, pour conclure, Monsieur Théron,
Je dirais que le burn-out dans les métiers du social n'est pas une faiblesse individuelle, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre profond entre mission et moyens. À travers ces témoignages, une idée s'impose. Prendre soin des autres suppose aussi de prendre soin de ceux qui accompagnent.
Merci, Monsieur Théron.
Merci à vous.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, je pense que nous avons planté le décor, Marine. Qu'en penses-tu ?
Alors, tout à fait. Ça fait beaucoup écho à mon parcours personnel.
Voilà, ben, dis-nous en quelques mots, là.
Alors, j'ai vécu aussi un burn-out très jeune. Je pense que c'était très jeune, même si je pense qu'il est encore plus jeune que moi. Donc, j'avais 26 ans à l'époque. Donc, je suis tombée du jour au lendemain, mais comme... Le disait le monsieur, là, je suis tombée bien avant.
Oui, voilà. C'était une usure du temps.
Complètement, oui.
Voilà. Et puis, cette incapacité à faire face à des situations qui en demandent beaucoup.
C'est ça. Donc, ça fait beaucoup écho quand j'entends le manque de moyens, parce que clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a plein de projets, il y a plein d'idées, mais en face, il n'y a pas de moyens. Et pourtant, on sait que les idées vont marcher.
Oui.
Voilà.
C'est compliqué.
C'est très compliqué à gérer et c'est très frustrant aussi. Et c'est ça qui génère la perte de sens.
Oui, c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre. C'est que ce n'est pas la faiblesse de quelqu'un, c'est la rencontre de quelqu'un de sensible. On est d'accord.
Tout à fait.
Ben, justement, il parlait de vocation dans le social. On peut dire comme ça, mais on peut dire aussi qu'il y a une sensibilité et de la compassion envers les besoins des autres.
C'est ça.
C'est simple. Et une incapacité à y faire face parce que on ne nous donne pas les moyens. La seule chose qu'on a, c'est d'être en empathie avec eux. Mais en final, on se fait emporter dans la vague.
Et tout à fait. Et à cause de ça, j'ai envie de dire, moi en tout cas, dans mon cas, c'est que je ne remplissais pas mes missions.
Oui, donc c'était
compliqué. Je ne respectais pas ma fiche de poste parce que je faisais des écarts. Mais en même temps... c'était pas adapté au public que je pouvais accompagner.
Oui. Là, je tiens à préciser, l'IA, on va préciser que nos auditrices et nos auditeurs peuvent intervenir au 03
29 62 40 40.
Ah, j'aime notre synchronicité, voilà. Ou alors sur notre page Facebook Ralentir pour vivre à Beau.
Oui. Ou Radio Guémozo, ou voilà. Le profil Guémozo, tout simplement.
Voilà. Et que vous pouvez réagir et que ce sera avec un grand plaisir, que ce soit anonyme ou autre.
Tout à fait.
Et que ça, c'est très important. Deuxième point important, Lia, c'est ce dimanche à 17h va passer le témoignage de Marine sur Radio Guémozo.
Dans Il était une fois le burn-out.
Voilà. Et là, on pourra en savoir plus sur ce qu'elle a vécu vraiment de fond en comble. Voilà, donc là, le décor est planté. Donc, on se trouve devant une situation où on est dans l'incapacité de faire face. Et dans une... Là, parce que maintenant, tu as 28 ans, hein, Marine.
C'est ça.
Donc, ça fait 2 ans que ça t'est arrivé.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, ces 2 ans t'ont servi, et là, c'est bien ton témoignage aujourd'hui, t'ont servi à te reconstruire ou en tout cas reprendre, de la dimension dans ta vie en dehors du travail.
C'est ça. Alors moi, je dirais même des mots plus forts, c'est que j'ai repris goût à la vie, que ce soit professionnellement et personnellement.
Voilà. Mais... Ça a été suite à un lâcher-prise.
Ah, c'est ça, oui, oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as compris que non, c'était plus faisable.
Tout à fait, voilà. Et en fait, c'est, j'ai envie de dire, le lâcher-prise, c'est un peu un travail de toute une vie. Ce n'est pas forcément après avoir fait un burn-out. C'est même avant de faire un burn-out, c'est, le lâcher-prise, c'est aussi prévenir.
Oui, c'est prévenir. Puis d'un autre côté, c'est très ambigu, c'est un peu schizophrène, ça. D'un côté, il faut être motivé. D'accord. Après, on dit, oui, mais n'y a-t-il pas un profil, hein, Lia, un profil de gens qui sont en burn-out, les motivés, qu'est-ce que tu en dis?
Les trop impliqués, les trop sensibles, les trop exigeants.
Ah là là.
Ah là là.
Alors, faisons une population de gens foutistes, de gens qui ne veulent rien.
Comme ça, c'est le voisin qui aura un burn-out.
Voilà, et en même temps, on s'en fiche un peu, mais ce n'est pas une solution en soi.
C'est un équilibre à trouver, en fait, entre l'impliqué l'explication qu'on a envie de donner. Et puis, mais c'est le système, en fait. C'est ce qu'on nous demande qui nous fait nous dépasser. Le manque de moyens, voilà, c'est des problèmes institutionnels, ça, en fait.
C'est des problèmes institutionnels et on a tendance... Alors, justement, tu parlais de la santé mentale, parce que la santé mentale, parlons-en, c'est le sujet du gouvernement de 2025 et de 2026, Marine, tu es d'accord?
Oui, c'est ça.
Et la présentation de ton bouquin qui aura lieu...
Le 9 octobre.
9 octobre, c'est pendant la semaine de
la santé mentale.
Voilà, je commence les phrases, tu les finis. Ça va comme ça?
Très bien. Voilà. Je te remercie.
Voilà. Et donc, cet ouvrage raconte en fait ton passage.
Oui, c'est ça, le passage de avant que je tombe en burn-out, le moment où c'est acté et tout l'accompagnement derrière, que ce soit, que j'ai été accompagnée par des professionnels de santé. Donc, c'est vraiment cet ouvrage où j'explique toutes les phases par lesquelles je suis passée durant ce burn-out, donc de la chute à la reconstruction.
Et la reconstruction, comme on en a parlé et que les auditrices et les auditeurs entendront dimanche, n'a pas été simple parce qu'elle est faite de... On est mieux, on est un peu moins bien, on est mieux, on est un peu moins bien, c'est ça aussi, hein.
Ah bah complètement, oui. Et rien n'est linéaire, et puis par contre, c'est la reconstruction est propre à chacun.
Oui.
Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de...
Non.
Voilà.
Et puis ça peut être des micro-rechutes, comme on disait, la différence avec les micro-rechutes, c'est qu'on sait de quoi on parle. Je vois Lia qui dodine de la tête. Elle dodine.
Mais on reconnaît en fait les symptômes. Voilà, et on se dit, bon, bah voilà, je fais à nouveau face à ça. Et puis, bah, comme on a déjà assimilé, entre guillemets, le fait d'être en burn-out et que quand c'est un peu comme ça, on essaye quand même de trouver des solutions pour aller mieux, hein, si c'est possible, de se faire accompagner, d'avoir des conseils de professionnels, bien sûr. On peut se dire tout de suite, attention, là, je sens que je suis en train à nouveau de glisser. Qu'est-ce que je fais maintenant pour ne pas glisser complètement, quoi.
Voilà, c'est apprendre à surfer sur la vague.
Ouais, un petit peu quand même, hein,
c'est
je pense.
C'est un peu ça, oui, ouais, je pense. Ouais, ouais. Et quelquefois, c'est compliqué. La chose est, comme tu viens de le dire, une fois qu'on a compris, ou Marine, une fois qu'on a compris, eh bien, on a d'autres armes pour faire face. Un petit peu comme, je ne sais pas, on va prendre une métaphore qui n'en est pas une, mais quand on a le rhume et qu'on sait que si on prend du Ravine, ça raille pas. Oui, tu vois, c'est le truc très bidon, hein, que je suis en train de dire.
Compris et accepté, moi, je dirais aussi. Voilà, oui. Parce qu'on peut le comprendre, mais ne pas l'accepter. Et du coup, être encore dans cette lutte, ce déni conscient de se dire « Non, c'est bon, demain, ça ira mieux. »
Oui.
Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est vrai. Et c'est quand même... là, on va faire une petite pause musicale. Un labyrinthe.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie. Cueillir raisins de Corinthe, épêche, rubis. Marcher, courir, nous éreinte. Là, restons assis au milieu du labyrinthe. Sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. Tu te promène celle dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sois sans hâte, sois sans crainte. Reste un peu ici, la porte joliment peinte. On tombera dessus, suivre une trace, une empreinte. Nous pouvons, ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais. Tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle, celle d'une autre. On se promène seul dans nos vies, comme si c'était celle des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, nous les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, nous les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Tu crois que tu vis, mais c'est ainsi qu'on meurt. Du piège où tu es pris, tu fais une demain. Laisse-moi aller, car le jour se lève. Laisse-moi décorer le labyrinthe. Le labyrinthe. Le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines, les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe.
Chers auditrices et auditeurs, dans le labyrinthe de notre vie, c'est une chanson qui est tout à fait adéquate avec tout ce qu'on vit. Nous revoilà avec Marine à l'antenne. Marine, alors maintenant, tu as choisi une autre, on va dire, une autre direction.
Tout à fait.
Dans ta vie, c'est-à-dire que oui, c'est du social sans être du social.
Alors,
comment tu pourrais le décrire ?
Moi, je dirais que je transforme mon expérience personnelle et professionnelle en une opportunité de travailler en faveur de la santé mentale, que ce soit pour les jeunes. Oui. Les salariés et les parents surtout.
Oui, voilà. Et donc maintenant, comment est-ce que tu vis ? Est-ce que c'est une sorte de transmission qui est nécessaire à ta reconstruction aussi ?
Oui, aussi, oui, oui. Ah, mais ça m'aide beaucoup aussi à rebondir sur ce que j'ai vécu. Donc en fait, le burn-out, c'est avant, pendant et après. Et là, je suis dans l'après.
Oui. Ouais. Et puis le avant, pendant et après, quand tu te retrouves en face de personnes qui sont... est-ce que tu arrives à ressentir ? Est-ce qu'elles sont avant ? Est-ce qu'elles sont pendant ? Ou est-ce qu'elles sont après ?
Moi, je dirais dans les trois cas, les personnes viennent pour la curiosité, savoir s'ils remplissent les cases, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Les personnes qui sont pendant, très peu. Très peu, parce que très enfermée sur elle-même, clairement, c'est pas le bon moment. Et le après, il y en a beaucoup.
Oui.
Et il y a des reconversions totalement, totalement incroyables. Et c'est là que ça transforme les vies de chaque personne.
Aurais-tu une anecdote à nous dire à ce sujet ?
Anonyme,
bien sûr. Hein.
Oui, une petite anecdote d'une personne qui était dans la fonction publique et qui retravaille dans les travaux, enfin, dans le bâtiment, en fait.
Ah oui.
Là, vraiment, au début, grande responsabilité, etc. Et vraiment, après, c'était y est revenu à l'essentiel.
Oui.
Peu importe la perte de salaire, peu importe... Non, ils se sont totalement transformés. Oui, revenir à l'essentiel. Ouais.
Oui, c'est là que c'est important, ce que tu es en train de venir comme sujet. C'est le côté dans la reconversion. Il y a un côté financier, on va dire revenir à l'essentiel.
Revenir à l'essentiel, quelque part, moi par exemple, je vois dans mon cas, où pour moi, revenir à l'essentiel, ça n'a pas de salaire.
Mm.
Voilà. Ça compense la perte de salaire que j'ai eue.
Mm. Mais explique-nous un peu là.
Eh ben, par exemple, avant, voilà, bonne rémunération, etc. Et aujourd'hui, je me développe. Mais je sais que c'est largement suffisant pour vivre aujourd'hui. Mon activité est à côté. Penser à moi, prendre du temps pour moi.
Donc, en fait, tu as une activité qui est, on va dire, pas alimentaire, mais je n'aime pas trop ce mot, mais qui est pour l'essentiel,
oui, voilà,
pour combler les besoins essentiels.
Complètement.
Mais qui n'a pas d'ambition au-delà de l'essentiel.
Non.
Par contre, les expériences, tu les vis en dehors.
Tout à fait.
C'est-à-dire que bah, je pense que tu dois être très sensible à toutes ces personnes et tu dois les repérer quand même.
Ah oui, oui, oui. Mais pour autant, dans cette activité-là, je prends beaucoup de distance par rapport aux situations que les personnes vivent. Donc voilà, ça fait beaucoup écho à des douleurs, à des moments du burn-out que je n'ai pas forcément très bien vécu. Mais... pour autant, je prends de la distance et je me dis, ouais, ok, cette personne vit ça, mais le après, il est chouette.
Oui, ben ça, c'est sûr. Je vois l'IA qui dodeline la tête. C'est vrai que quand on voit... Est-ce qu'on les repère plus, les personnes qui sont en épuisement? Je pense que oui.
Hein. Un petit peu, hein, quand même. Hein. Oui, oui, quand on est un petit peu... quand on regarde l'autre, on arrive quand même
C'est un peu comme quand on est maman et qu'on voit quand notre enfant a de la fièvre, quoi.
Tout à fait.
C'est-à-dire que ça se repère.
Ou quand on est en train de nous faire un bobard, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, parce qu'en fait, souvent, des personnes sont dans le... Allez, pendant ou même après, hein, et elles crient haut et fort, « Je gère, je gère. » Oui, d'accord, ok, peut-être, oui, enfin, c'est comme des appels au secours.
Ah oui, oui, oui. Des appels au secours, mais pour autant, toujours dans le déni.
Ah oui, c'est ça. Et alors, j'ai connu, pour des anecdotes, j'ai connu des personnes qui ont été en très fort burn-out, qui ont dit en être sorties, hein, entre autres, je pense à une personne, bon, elle doit avoir une soixantaine d'années, mais qui dit en être sortie et typiquement, elle a encore tous les syndromes de quelqu'un qui est en plein dedans. Des crises de larmes, des moments d'émotion extrêmement forts, des moments où elle n'arrive pas à s'exprimer parce que c'est trop prenant pour elle. Et elle est encore dans le déni, en fait.
Elle est dans le déni, mais pour autant, c'est sa vérité.
Voilà, c'est
sa vérité d'aller mieux, ben voilà, c'est ça, je vais mieux.
C'est ça. C'est ça. Et alors, dans ce que tu fais comme nouvelle activité maintenant, tu as affaire à des gens qui sont peut-être l'avant aussi.
Beaucoup l'avant, oui, oui, oui. Moi, l'objectif de ma mission, voilà, c'est de prévenir en amont, donc de transmettre les signes du burn-out, de sensibiliser et après de permettre aux personnes, donc je pense aux jeunes, de limiter le décrochage scolaire, aux parents de reprendre leur vie de parents et aux salariés de mieux trouver leur place et retrouver leur place du sens dans leur travail.
Oui, tout à fait, oui. C'est important. Je pense que la prévention est presque plus importante que tout.
Ah oui.
Puis bon, la deuxième chose que j'estime, mais ça c'est par rapport à Ralentir pour vivre, à l'association, la deuxième chose que j'estime être essentielle, c'est en parler. Bon, ben là, Lia, on est d'accord, on en parle.
On n'en parlera jamais assez, de toute façon.
Non, mais merci à, alors au passage, merci à Radio Gemozo de nous laisser la voix pour ce sujet.
Ben, merci à
et
toi.
Et c'est important de pouvoir en parler et d'en parler et d'en parler encore. On va se faire une petite pause musicale avec une chanteuse que j'aime beaucoup.
Chacun s'installe des choses. travers, oh manie. Je vous mets en lumière, je me fais face. Fini le déni, fini les manières. Bla 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 bla, oui je le redis. Père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers.
Voilà, chers auditrices et auditeurs, au travers de notre vie. Alors justement, on parlait entre deux hors antenne avec Marine de la porosité dont on avait parlé dans l'audio au départ entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est vrai que on a un surplus d'épuisement professionnel et on renvoie la claque à la vie privée. Ou est-ce qu'on a un surplus dans l'un, on renvoie la claque à l'autre? Qui de l'œuf et de la poule?
Alors ça, c'est très difficile à savoir au final, une fois qu'on est tombé. On ne sait pas si c'est le boulot, on ne sait pas si c'est la vie privée. Par exemple, dans mon cas, moi, c'était quand même plus professionnel, j'ai envie de dire, parce que je revenais à la maison avec mon travail. Et même des fois, ce qui se passait dans ma vie privée, je me défoulais au travail. Voilà. Mmh. Et moi, les conséquences ont été, j'ai envie de dire, terribles. Enfin, avec le recul, elles ne sont pas si terribles que ça. Enfin, voilà. Ça n'engage que moi, mais vraiment où je suis tombée, c'était je suis partie de ma relation, je suis revenue chez mes parents, j'ai vraiment tout déconstruit, mais parce que j'ai été dans une grande souffrance. Plus rien ne s'alignait avec la personne que je ne savais plus qui j'étais au final.
C'est ce qu'il disait, on ne se reconnaît plus soi-même. Et il y a une porosité entre la vie privée et la vie professionnelle qui fait que l'une est empoisonnée par l'autre. Qui empoisonne qui, on ne sait pas, mais l'une est empoisonnée par l'autre. On parlait justement du burn-out parental, qui aussi est une porosité par rapport au stress ambiant qui rentre dans la vie de famille.
C'est ça, oui. Puis il y a aussi le burn-out parental, c'est surtout la pression qu'on se met en tant que parent.
Oui.
Voilà.
Mais alors qu'on se met en tant que parent, on va approfondir un peu ce sujet. La pression qu'on se met en tant que parent, est-ce qu'on pourrait se poser la question par rapport aux exigences que la société nous a induites dans notre cerveau, qui fait que maintenant, on trouve ça normal d'être exigeant?
Tout à fait. Et puis, être parent, ça n'a plus la même définition aujourd'hui qu'il y a, je ne sais pas, 10, 20 ans, je ne sais pas, je ne suis pas maman. Mais en tout cas, c'est ce que je vois autour de moi. Les exigences en tant que parent, tout ce qui arrive, l'éducation à l'école, les codes entre enfants, les codes entre parents, ça a totalement changé.
Oui, alors là, on a une experte qui a quand même
quatre enfants.
Donc, elle est experte dans la matière.
Et une petite fille maintenant.
Et maintenant, une petite fille, mamie. Et bravo, oui. Mamie. On en profite pour dire bravo, mamie.
Félicitations.
Oui, félicitations. Et alors, c'est vrai, les exigences qui sont induites par la société, comment tu définirais ça, Lia, à toi?
Bien sûr. Déjà, moi, ce qui m'avait beaucoup choquée, c'était le regard entre parents.
Voilà.
Le regard de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté très rapide, ce sera le petit coup de gueule de cette émission. Il y a quelques temps, à Épinal, est arrivé deux incidents de sécurité majeurs, dont l'un avec un mineur qui a mis le feu dans un endroit à Épinal. On a reçu un mail du maire nous disant qu'il fallait, c'était urgent de venir en aide à la jeunesse. Donc, je me suis dit, trop bien, ils prennent conscience des choses. Ils vont peut-être un petit peu dans l'utopie sur le moment. Je me suis dit, ils vont pouvoir proposer des choses pour leur venir en aide. Et en fait, juste en dessous était indiqué, il faudrait quand même que les parents reprennent un petit peu leur rôle, quoi. En fait, ils accusaient les parents de cet enfant-là de ne pas avoir été à la hauteur dans l'éducation. Et peut-être que ça arrive, hein. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et c'est très, très culpabilisant quand on est un parent. Et moi, je me vois faire la réflexion à un de mes enfants une fois en lui disant « Mais tu sais ce qu'ils vont dire à l'école ?»
C'est ça.
« C'est que je m'occupe pas bien de toi. » Et c'est en ça. Plus, j'étais très stigmatisée parce que j'étais maman solo de 4 enfants, etc. Donc vraiment, le cliché de la pauvre fille, quoi. Et ça, c'était dur. Ça,
oui, c'était et dur. Ce qui est difficile, c'est comme tu dis, le regard des autres.
Oui.
Et le regard de l'éducation qui, en fait, a déjà baissé les bras, n'est plus dans la compétition parce qu'en fait, ils ne font pas vraiment d'éducation, hein, à l'éducation nationale. Ils font plutôt du formatage, on va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire, tu rentres dans le moule, tant mieux. Tu ne rentres pas dans le moule, tu te mets au fond de la classe, en gros.
Oui, et puis
je caricature, mais
il y a aussi toute l'évolution sur l'éducation dans la société où on est complètement passé de l'un à l'autre, de la discipline extrême à un petit peu au laxisme. Enfin, les codes ont changé dans l'éducation et du coup, quand on est parent, on ne sait plus où donner de la tête. Si on n'a pas confiance en soi, qu'on est débordé, qu'on se sent pas bien dans son rôle, qu'on est culpabilisé de façon incessante et qu'en plus les codes changent, on ne sait plus en fait où donner de la tête. Et là, ça devient compliqué.
Oui, c'est compliqué. Donc, le burn-out parental, Marine, comme tu disais, c'est compliqué. As-tu des anecdotes à ce sujet ? Pareil, anonyme, toujours, on est d'accord.
Alors, je n'ai pas forcément d'anecdotes, mais je me mets à la place des parents. Je rebondis sur ce que tu dis, Lia. Je pense que... Alors oui, c'est compliqué d'être parent, il n'y a pas de mode d'emploi, et ça, ça a toujours été. Et on parlait d'éducation nationale... En fait, il y a clairement un manque de moyens. Donc, ça, on en revient au burn-out professionnel où quand on fait un burn-out, oui, il y a le côté on n'a pas de moyens. Et bien, clairement, pour l'éducation nationale, c'est ça qui se passe. Donc, forcément, ça a des répercussions sur les parents, sur les enfants. On parlait il y a quelques temps du burn-out n'a pas d'âge, mais clairement, on est dans ce schéma-là. Oui. Ça va être, entre guillemets, de pire en pire, je ne sais pas. Mais le problème se pose. À quel moment on intervient ? Le décalage entre l'éducation nationale et l'éducation des parents, il y a un fossé énorme.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça paraît compliqué à l'heure actuelle pour un parent, comme tu disais, d'être dans une extrême qui serait considérée comme laxiste. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vois avec mes petites filles, c'est un peu ça, comme ça que ça se passe, mes petits-enfants, c'est que les parents, ils discutent. Mais discute, le coup de gras, quoi. L'enfant, tu ne lui dis plus, tu fais comme ça. Non, mais tu vois, l'argument 1, l'argument 2, l'argument 3, c'est épuisant. Hein?
Oui, après, c'est une façon de faire et chacun a sa vérité là-dessus. Chacun se sent bien dans une certaine façon de faire. Moi, j'ai essayé pas mal de choses. J'aime bien discuter avec... Enfin, bref, ça, c'est une chose que moi, je fais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les enfants, ils ont besoin d'un cadre un petit peu, parfois, plus carré, en fait, plus appuyé. Et il faut savoir trouver cet équilibre. Et quand on est parent solo, même quand on est deux parents, c'est déjà compliqué. Quand on est parent solo, c'est compliqué. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Marine, je pense que si j'avais eu ce recul nécessaire à l'époque en me disant « Ah, peut-être que mon interlocuteur est en train de faire un burn-out », parce que j'ai beaucoup été confrontée un petit peu à la maltraitance psychologique de certains enseignants à mon égard et à l'égard de mes enfants. Mais je n'avais pas ce recul nécessaire en me disant « peut-être que c'est compliqué pour lui ». Parce qu'on en parlait dans une autre émission où, en fait, on ne voit l'autre que sous sa casquette. On ne voit la personne que sous sa casquette d'enseignant. Alors qu'en fait, derrière tout ça, y a une personne qui certainement n'est pas forcément très bien dans son travail parce qu'elle manque de moyens, etc., etc. Et si on se parlait entre personnes peut-être sensibilisées déjà, pas forcément concernées directement, mais sensibilisées au burn-out, ça serait peut-être plus authentique dans les propos et ce serait peut-être plus simple de communiquer ensemble.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, je pense que le burn-out parental est indirectement induit par un burn-out professionnel. Dans un sens comme le travail social, l'éducation, on lui demande de mener à bien des missions sans lui en donner les moyens. Donc clairement, ils sont ce qu'on appelle la détresse, ils l'ont déjà en tant qu'être humain. Et ensuite, ils portent une casquette où ils doivent tout marquer sauf le mot détresse. C'est compliqué, hein ? Ça veut dire qu'il y a quand même il faut se masquer quelque part.
Tout à fait.
Oui.
Ah bah de toute façon, le burn-out, dès le début, c'est du masking. Hein.
Oui.
Voilà.
Ça, c'est très bien intéressant ce que tu dis là, oui.
Donc vraiment, c'est on se met une casquette parce que oui, il y a de la pression sociale, il faut être professionnel, il faut avoir son costume. Et clairement, la personne derrière, c'est ce que tu disais, Lia, en fait, elle n'existe pas aux yeux des gens. Alors que, comme tu dis, derrière chaque professionnel, il y a une personne, il y a un être humain.
Et ça, je le répète à mes enfants et je conseille peut-être à certains parents, si je puis me permettre. Je leur dis souvent, oui, ton prof, il n'a pas été sympa aujourd'hui. Mais tu sais, ton prof, c'est une personne comme nous. Peut-être ce matin, il a appris une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il a été dans un embouteillage, sa roue a crevé. J'en sais rien, son café s'est renversé sur sa tenue alors qu'il était prêt après. On ne sait pas. Non. On ne sait pas. Donc, prenons en compte quand même l'entièreté de l'individu qui est en face de nous, même si... Je pense que c'est un petit peu utopique de le dire comme ça, mais ça serait vraiment sympa.
Oui, puis en dehors de la tasse de café, disons qu'on peut se dire qu'on a en face de soi un peu des maçons, hein, quant à leur mission. Ils doivent monter un mur, mais il leur manque les agglos et le ciment. Oui. Pas compliqué, hein, mais complexe. Hein.
Comme juste l'huile de coude.
Juste de l'huile de coude et on leur demande de monter un mur. Moi, je me mets à la place de l'éducateur. C'est pas évident. C'est loin d'être évident. C'est vraiment... compliqué et plus que compliqué. Et en plus, comme on va l'écouter, on n'a qu'une seule vie.
Qu'est-ce que les doutes ont fait de notre vie? Et pourquoi on en est là aujourd'hui? La vie en vitesse de croisière, sans revenir en arrière, sans faute, sans tisse, sans danse, sans risque. Seulement l'amour pourra combler le vide. Mais moi j'ai peur de m'oublier trop vite. Il faudrait qu'on joue aux adultes, prendre nos petites habitudes, mais faudrait qu'on respire. On n'a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. J'ai besoin de brûler mes envies. Et je sais pas ce que serait le mieux. On n'a peut-être qu'une seule vie. Ça suffit pas de le dire. Fait de notre vie, lui qui devait nous montrer le chemin. Je veux être un grand moi, pas une adulte, non. Je dis ça comme ça a l'air de rien. C'est mon amour pour combler le vide. Mais pourrions-nous rester toujours libres? Il faudrait construire une vie, pas sûr que j'en ai envie, donc je voudrais qu'on respire. On n'a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. J'ai besoin de brûler mes envies. Et je sais pas ce que serait le mieux. On n'a peut-être qu'une seule vie. Ça suffit pas de le dire.
Voilà, chères auditrices et auditeurs, nous revoilà en direct avec Marine. Eh bien, après cette vie, qu'on a une seule vie, c'est une chose. Et alors, qu'est-ce que tu dirais de prendre le temps ? Puisqu'avant, un burn-out, on n'a pas le temps.
Exactement, on n'a pas le temps. Et après, on prend le temps. Enfin, on est forcé à prendre du temps. Parce que clairement, quand on n'a pas le temps et que du jour au lendemain, on dit, les médecins disent « Ah, mais il faut prendre le temps de guérir. » Moi, j'étais là, mais en fait, je n'ai pas le temps. Il faut que je retourne au travail. Pour moi, j'étais persuadée que, allez, dans 2 semaines, ça va mieux. Et puis voilà. Hein.
Ouais.
Et en fait, j'étais obligée de prendre le temps. Sinon, ça n'allait pas fonctionner. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu.
Non, mais ça, ce sont des choses. Je pense qu'il y a, ça s'appelle le processus du deuil.
Mm-hmm.
Au début, on se bagarre pour dire non, 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 non. Mmh. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet. Il y a 7 ans, je suis tombée sur le bas de mon dos. Il se trouvait que j'avais de l'ostéoporose. J'ai cassé 3 vertèbres et j'avais un attelage avec 2 chevaux. D'accord ? Et je faisais de l'attelage et j'avais une roulotte. Et enfin, bref, et je devais partir en voyage. Et je suis arrivée aux urgences. Ils m'ont dit, oh là là, madame, vous avez 3 vertèbres cassées. Je dis, ah ben, c'est bon, mais dans 15 jours, je peux retourner. Ils m'ont dit, écoutez, madame, on va juste vous dire, hein, normalement, avant dans 2 ans, vous n'allez pas être de nouveau dans la normalité. Je dis, ah non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Dans 3 semaines, il faut que je nettoie les sabots, il faut que je les fasse refaire, il faut ci, il faut ça, machin. Ils m'ont dit, oui, oui. Ils m'ont dit, oui, oui, oui. Bon, ben, ça a mis plus de 2 ans, mais c'est le deuil. Au départ, on ne veut pas, on se bat pour dire non, 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 non.
C'est ça.
Tu t'es battue.
Ah oui, je me suis battue. Et puis, le burn-out, c'est... Alors oui, ok, du jour au lendemain, on tombe. Mais il y a un sacré laps de temps pour accepter que oui, je suis en burn-out. Physiquement, c'est ok. On est cloué au lit, on est vraiment HS complet. On fait des nuits de 16 heures. Enfin, j'en parle de 16 heures parce que c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Mais après, on est obligé d'accepter, sinon ça ne fonctionne pas pour avancer.
Et quand on accepte... Il y a un moment de down complet.
Ah oui, ah oui, oui. Et j'ai envie de dire, plutôt on accepte, enfin après c'est propre à chacun le plus tôt, et plus on est dans cette optique de « ok, je vais prendre le temps, et après je vais avoir du temps pour moi ».
Oui, et après tu prends du temps au temps.
C'est ça.
Tu lui empruntes du temps au temps.
Oui, oui, hein, c'est ça.
Ah oui, parce que je disais justement, maintenant on n'a plus le temps, on est d'accord. Là, j'avais fait un micro-trottoir qui est passé d'ailleurs dernièrement pour VRN. Et tous les gens que j'ai croisés, une vingtaine, une trentaine, sur les 20, 30, il y en a eu 20. Allez, sur les 30, il y en a eu 20 qui m'ont dit « j'ai pas le temps ». C'était dans un parc hein, où on se promène. Donc, j'ai pas le temps. Bon, d'accord, ok, j'ai pas le temps. Donc, on n'a pas le temps, donc on ne donne plus du temps au temps. C'est une chose. Et puis, à un moment donné, j'aimerais poser une question. Tiens, ben, Lia et Marine, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, les loisirs dans le temps, c'est qu'à dire, on est toujours avec le temps là. Hein. Dans le temps, on appelait ça des passe-temps.
Mm-hmm.
Et donc maintenant, pour les passe-temps, on n'a plus le temps. Non mais expliquez-moi là. Il y a quelque chose que j'ai pas compris.
Bah déjà les passe-temps, je trouve, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que, par exemple, quand on était enfant, nos parents, ils voulaient absolument nous occuper. Voilà, ouais. Il voulait absolument nous occuper, donc il fallait qu'il nous fasse passer le temps. Voilà, ouais. Par exemple, les mercredis après-midi, hein, c'est bien connu, les activités payées scolaires, bah, c'est pour que le parent se dise que son enfant est occupé, il est en train de faire quelque chose, etc. Alors que déjà, ça commence mal, on peut ne rien faire, c'est bon. C'est très, très bon pour l'imaginaire de l'enfant de s'ennuyer. Et puis en plus, ça conditionne à autre chose quand on est adulte, parce que c'est quand on a grandi comme ça, avec des passe-temps, bah en fait, on est toujours en recherche justement de faire quelque chose. On sait même plus ce que c'est se détendre. Il y en a qui se fixent des objectifs, ils sont fatigués, ils ont une journée de boulot et tout. Mais non, il faut que le soir, ils aillent faire ci, il faut qu'ils aillent faire ça le week-end. Mais
oui, moi, je connais même des gens qui, les vacances, 3 mois à l'avance, organisent 3 semaines de vacances au loin, par exemple, avec toutes les visites réservé à l'avance sur le net. Ce qui veut dire qu'ils arrivent en vacances, à vos marques, prêts, partez, mission chaque jour, là. Et donc, c'est vraiment... ça fait presque peur, cette histoire de temps. Et c'est ce que j'appelle, moi, le phénomène de la toupie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Pas du tout, mais je suis intéressée.
La toupie, eh bien, une toupie, quand tu la fais tourner, elle reste debout, tant qu'elle tourne.
Ah oui.
Quand elle s'arrête de tourner.
Très belle image.
Qu'est-ce qui lui arrive à la toupie?
Sur le côté.
Oui, donc l'être humain, il est un peu dans le phénomène de la toupie. Et c'est ce que tu disais, Lia, je reprendrai. Ben, les enfants, on les occupe. Et d'ailleurs, les enfants, on les met beaucoup dans le processus de l'épuisement. Parce que, alors, il y a des enfants qui te disent « Ah, oh, mais j'aimerais avoir un peu de temps. » Quand un enfant te dit ça...
Mais ils ont raison. Ils ont raison, quelque part. Et je rebondis sur le « il faut ». Il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, ça conditionne déjà très jeune à être dans un processus, comme tu disais, de « il faut pas s'arrêter, il faut faire ci, il faut faire ça ». Mais pourquoi ? Parce qu'on a une pression sociale derrière qui, forcément, au bout d'un moment, va générer de l'épuisement, que ce soit professionnel, parental, émotionnel, tout court, en fait.
Oui. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est peut-être bien dans cette première émission de la rentrée, puisqu'on arrive avec nos petits
balis. Sabots.
Ah oui, oui, on rentre de nos vacances, de dire que le burn-out ou pas, épuisement ou pas, la question, elle est de prendre conscience des dictats qui sont imposés par la société. Et de se demander, est-ce que c'est moi qui choisis ou est-ce que je choisis pour faire l'image à l'extérieur comme ça? C'est cette interaction qui est intéressante.
Ça, c'est le travail d'une vie, ça. Hein
oui.
Ah oui, hein oui. Et peu importe l'âge à laquelle il commence. Alors, moi, je pense avec le recul que, en tout cas, c'est ma vérité. Je pense que le burn-out, du moment où il arrive dans votre vie, c'est qu'il faut prendre une décision. Est-ce que je continue dans ce processus il faut, ou je choisis le OK, je prends du temps pour moi et je construis ma vie, pas toute seule, j'ai envie de dire, mais... à ma manière. Je pense que c'est la question que tout le monde doit se poser.
Mais en fait, moi, j'aime pas trop le mot parce que du coup, là, il s'applique peut-être pas bien, il va peut-être pas bien résonner, mais je crois que c'est une discipline de vie.
Ah, bah voilà.
C'est une discipline de vie dans le sens où, à partir du moment où on a pris conscience qu'on est surchargé, qu'on est épuisé, il faut faire des choix et s'y tenir. Parce que c'est facile, à un moment donné, on a une petite fluctuation, un petit envoi de dopamine, et puis hop, c'est reparti, on a l'impression qu'on est reboosté. Mais en fait, non. Si tu as décidé que tu faisais 2 jours de télétravail dans ta semaine, tu fais 2 jours de télétravail dans ta semaine. Si tu as décidé que, voilà, là, tu allais faire un petit peu de méditation, ou moi, je pense beaucoup au sommeil aussi, il faut quand même récupérer. Il y a une certaine horaire à respecter. Vers 22h, c'est quand même bien. Au-delà de 22h, le corps, il récupère moins bien. Eh bien, il faut se discipliner là dans l'alimentation, etc.
Et là, je vais rebondir parce que discipline, savez-vous ce que veut dire discipline ?
Mais tu vas nous dire
c'est
ça.
Être le disciple de soi-même.
Oh, c'est beau ça.
Donc, quand on le prend comme ça, il n'y a plus ce côté couperet, couteau sous la gorge. Ah, faut que j'ai une discipline. Ah là, ça commence à être étouffant, tu sais. Waouh, un carcan que je me remets. Non, être le disciple de soi-même, au service de soi-même. Donc, ça, c'est important d'arriver à un moment donné à savoir, comme tu dis, faire les choses. OK, là, on me sollicite pour ci ou ça, mais moi, c'est mon temps de jogging, c'est mon temps de méditation. Eh bien, non, je vais répondre que ça sera plus tard parce que là, moi, c'est mon temps à moi. C'est prendre le temps.
Le burn-out, c'est trouver sa propre limite. Hein.
C'est ça.
Le burn-out nous met face à nos propres limites. Ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit parce qu'on est faible. C'est parce qu'au contraire, on a été, pour moi, plus
trop fort.
Trop fort. Et du coup, on a trouvé nos limites. Et maintenant, à nous de reprendre ça en main et d'appliquer ces limites aux autres.
Et j'aime ce que tu dis par rapport à souvent ce que j'entends quand je me retrouve dans des situations où il y a des échanges, où on me dit, en fait, l'employé doit poser ses limites. Non. L'employé est un être humain. L'être humain doit se poser des limites à lui et non pas à l'extérieur. Oui. L'extérieur, il doit y avoir... Alors là, il faudra quand même à un moment donné qu'on y arrive, c'est qu'il y ait une certaine bienveillance de la part des personnes qui, emploient ou tout cas dans les infrastructures, une certaine bienveillance, c'est-à-dire une écoute. Dire, si quelqu'un te dit, moi, mes limites, c'est ça, pas être obligé de combattre.
Alors, je reviens sur le mot bienveillance.
Oui.
OK, le mot bienveillant, il revient de plus en plus, on l'entend beaucoup. Mais attention, la bienveillance, c'est différent d'avoir un cadre. Pour moi, la bienveillance, ça rentre dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas mettre de... Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais s'il y a un cadre défini, on peut y mettre de la bienveillance ou non. Mais s'il n'y a que le mot bienveillance, on écoute, etc., sans cadre à côté, pour moi, ça n'a pas de sens, le mot bienveillant.
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, exactement. Il faut un cadre, il faut des limites. Il faut que l'employé se mette des limites et non pas l'employeur se mette des limites demander à l'employé.
Et ça, c'est une rééducation totale, de tous, quoi.
Pour qu'on arrive à un moment donné à reprendre le temps.
J'aimerais tellement pouvoir vous dire que rien ne va jamais finir, que l'horloge peut se retenir. J'aimerais tellement pouvoir écrire que rien n'arrêtera les rires,
rire.
Que notre vie est une source qui saurait se tarir.
Mais rien ne sert de mentir, j'aimerais au moins vous prévenir que c'est en les vivant qu'on construit les souvenirs, qu'à trop vouloir courir, c'est nos vies que l'on finit par fuir.
Laissez-nous prendre le temps, laissez-vous prendre le temps, laissons-nous prendre le temps, et juste quelques instants, laissez-nous prendre le temps. Laissez-vous prendre le temps. Juste écouter le vent, le vent.
Perdre sa vie à la gagner et voir défiler les années.
Oh.
Y sommes-nous vraiment condamnés?
N'y a-t-il pas d'autre voie que nous pourrions paver?
N'y a-t-il pas d'autre choix,
d'autres priorités?
Cherchez le plus, pas le meilleur. Ressemble-t-on à une erreur?
C'est nous poursuivons à l'heure. Est-ce l'abondance de biens qui offre le bonheur? Laissez-nous prendre le temps.
Laissez-vous prendre le temps.
Laissons-nous prendre le temps. Juste quelques instants, laissez-nous prendre le temps,
laissez-vous prendre le temps.
Juste écoutez le vent.
J'ai peur qu'à la ligne d'arrivée de cette course courue tête baissée, il n'y ait comme médaille que le goût des regrets.
Mais je ne connais qu'une urgence.
Gagner la quête du sens.
Il y a tant à vivre sans attendre demain.
Là,
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 là.
À portée de nos mains.
Laissez-nous prendre le temps.
Laissez-vous prendre le temps.
Laissons-nous prendre le temps. Juste quelques instants.
Laissez-nous prendre le temps.
Laissez-vous prendre le temps.
Juste écoutez le vent.
Prendre le temps. Prendre le temps.
Juste quelques instants.
Juste écoutez le vent.
Prendre le temps. Prendre le temps. Juste écoutez le vent.
Voilà, chers auditrices et auditeurs, nous revoilà dans le studio avec Marine qui va nous parler de son livre. Alors, c'est quoi ce livre? C'est Tripes sur la table.
Ah bah, complètement, c'est mes tripes sur la table. Et donc ce livre, pour un petit peu planter le décor, il est né bien avant qu'il sorte, mais il a commencé le jour du burn-out. Sur un carnet où je déposais tout ce que je ressentais, toutes mes questions, tous les diagnostics qui sont tombés durant donc plus d'un an. Et aujourd'hui, c'est sa sortie donc le 9 octobre, qui s'intitule « J'ai réussi mon burn-out ». Et j'avais envie de le partager, de partager mon expérience au grand public, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Et voilà, j'ai réussi mon burn-out. Voilà, ça en dit long sur ce qui s'est passé et dont la personne que je suis aujourd'hui. Hein. Donc, qui est destinée à tous les publics, peu importe où est-ce qu'on travaille, peu importe la casquette, peu importe l'âge aussi. Voilà.
Tu nous as mis les tripes sur le papier. Quoi.
Complètement.
Voilà.
Je casse le tabou, clairement.
Oui, voilà. Tu as carrément largué le...
J'ai lâché le bébé, ouais.
T'as lâché le bébé ? Ah bien, t'as lâché le bébé.
Ah oui, vraiment, le but, c'est de déstigmatiser tout ce qu'il y a autour du burn-out. Et vraiment, tout ce qui s'est passé dans les détails dans ma vie, où je livre vraiment ma vie personnelle pour dire que, OK, peu importe son niveau de vie, peu importe la personne, je pense vraiment... que les questions que je me pose, il y a beaucoup de personnes, peu importe dans quelle étape on est dans sa vie, burn-out ou pas, je pense qu'elles sont légitimes et beaucoup de personnes se les posent. Voilà.
Très bien. Et comment on se le procure alors ?
Alors, déjà dans un premier temps, il suffira de me contacter sur contact@marineguier.com.
Alors, on va le dire bien comme il faut.
contact@marineguier.com
en un seul mot
.com, tout à fait
.com, d'accord. Et il y a un site marineguier.com.
c'est ça, tout à fait. Et vous pourrez aussi le retrouver dans différents dépôts de vente sur Remiremont notamment.
Voilà, donc on le retrouvera sur Remiremont. Nous sommes bien dans la région, hein. Exactement. Donc voilà, et c'est quelque chose qui pour toi est un peu une clôture, une boucle qui est bouclée.
Alors je dirais même c'est une boucle qui, pas une boucle, mais c'est une porte qui s'ouvre.
Ah d'accord,
ouais,
dans
oui,
l'autre
oui,
sens.
Oui, dans l'autre sens, oui. Ah. C'est vraiment ce livre que je partage, ça va être quelque part un symbole de OK, tout ce que j'ai traversé, c'est dans ce livre et il faut pas que j'oublie ce qui s'est passé. Ah. Donc pour moi, c'est une porte qui s'ouvre de « ouais, c'est mon outil, ce sera mon outil de tous les jours ».
Oui, et c'est important ce que tu es en train de dire, il ne faut pas oublier ce
qui s'est
passé.
Ta Bible, un petit peu.
C'est ça, ça, tout à fait. Et il y a le « J'ai réussi mon burn-out », mais un petit peu pour vous teaser, ce ne sera pas le premier livre. Voilà.
Oui, et c'est important de dire que oui, c'est quelque chose qui nous reflète en quelque sorte.
C'est ça,
Ne pas oublier. Et ça, c'est important, Lia, hein, ne pas oublier.
Bah, bien sûr. Hein, de toute façon, si on oublie, on aura des piqûres de rappel.
Ah, bah, alors...
La vie est bien faite, tout à fait.
Ça, c'est certain. Alors là, je peux vous dire, mon burn-out date d'il y a 21 ans en arrière. J'ai encore eu, il y a quelques années, encore des piqûres de rappel. Bon, elles n'étaient pas dramatiques parce que, comme tu disais, Lia, et je suis assez d'accord, et tu disais la même chose aussi, Marine, c'est qu'à un moment donné, on dit « Oh là là, mais ça sent... »
Le corps, il sait, de toute façon.
Oui, oui.
Le corps est mental, ça. Oui.
Moi, je me souviens que je prenais mon agenda et quand je sentais qu'il y avait too much, je ne pouvais pas dire pourquoi. Je me disais « Mais là, il y a too much. » Je prenais et je me disais « Qu'est-ce que je peux rayer ?»
Ah, ça, c'est important. Hein.
Et je rayais en me disant « Bon, est-ce que la Terre va continuer à tourner ?» Mais oui, la Terre continue à tourner.
J'ai lu un article qui conseillait d'ailleurs, au début de sa journée, bon, j'aime pas trop les trucs comme ça, parce que c'est très standardisé, ça parle pas à grand monde finalement, mais qui disait que quand on commence sa journée, il faut déjà rayer une ou deux tâches qu'on avait prévues, et qui finalement ne sont peut-être pas utiles à faire ce jour-là.
Non, et qui mettront probablement la pression sur tout le reste.
C'est ça.
Et surtout, en fait, tu rentres dans un jeu de « il faut ». Voilà. Dès le début, quand tu commences ta journée. Et déjà là, on se dit, ouais, ok, je me lève et il faut. Alors, bien sûr, il y a des priorités dans la vie, mais le « il faut », il est tout de suite pesant sur les épaules.
Je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'accompagnais des gens à l'époque en burn-out. Et quand ils me disaient « il faut », je disais « oh là là, tranquille, les faux, c'est pour faucher les champs ». Ils me regardaient d'un air de dire « mais les cinglées, celle-là ». Bon, c'est vrai que je suis un peu cinglée, mais enfin là, ils me prenaient vraiment pour une cinglée. C'est vrai que « il faut » ou « je dois ». Ou alors, j'adore, « je dois faire de la méditation ». Oh là là, tu démarres mal, coco, là. Si tu dois,
j'ai besoin.
Oui, tu dois te relaxer. Oh là là, pistolet sur la tempe. C'est pire. J'avais entendu ça, un neuropsychologue qui disait, en fait, quand on se met des injonctions comme ça, c'est antiproductif.
Ah, mais c'est pas de la psychologie positive.
Non,
non, non. Le cerveau, le « il faut », non, c'est...
Il faut que je me calme. Mais non, soyons énervés, ça va bien passer. Mais il faut que je me calme, c'est pas...
Non, mais encore une fois, c'est pour rentrer dans une case, le « il
faut » oui.
et « je dois ». Et en fait, on l'apprend tout de suite à l'école, hein, rien que le mot « devoir ».
Oui, ah oui.
Devoir. Déjà, ça, c'est pas possible.
Oui.
Devoir.
Ah oui, il y a des mots comme ça. Comme
traumatisé,
d'ailleurs.
Hein, d'ailleurs, le mot devoir.
Oui, je le vois.
Ah là là.
Ah, ça a marqué.
Ah oui.
Comme il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est je vais faire les courses. Non, moi, je vais faire mes provisions. Parce que je vais faire les courses.
Ah bah, il y a le mot course, oui.
Non, mais on
ça
va
être
où,
la course,
là
quoi.
Non, mais. Et je me reprends à chaque fois, les gens me regardent, d'un air de dire, ah, elle va faire ses provisions. Ben oui, moi, je vais faire mes provisions. Mais faire les courses. Waouh, déjà là, mon cerveau, il a fait tong-tong. Ah, il faut aller courir. Mm. Ah, mais c'est vrai. C'est fou dans le parler, ce qu'on emploie.
Oui, oui. Et puis, même, je pensais à ça tout à l'heure, quand bah, c'est un petit peu à part, mais quand les enfants disent, oui, mais pourquoi je dois aller à l'école ? Pour gagner de l'argent quand tu seras plus grand. Mm. Tu vois, déjà, il faut avoir un métier pour gagner de l'argent. Mm. Et c'est pour ça que tu dois respecter tout ce qu'on te demande à l'école. C'est déjà...
Mais c'est la société qui veut ça.
Bah bien sûr.
Encore une fois, on en revient là.
Je reprendrai une parole de John Lennon à qui on avait demandé à l'école « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?»
Ah, oui.
Il avait répondu « Je veux vivre. »
Je veux être heureux.
Ah oui, je veux être heureux. Oui, voilà, ça c'est beau. Eh bien, merci, chères auditrices et auditeurs. Et on se retrouvera dans 15 jours avec un autre invité dont je vous ferai la surprise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de votre écoute.
Merci.